Salutations à tous et à toutes. Alors, on a lu beaucoup de textes ce matin déjà. C'est pourquoi je vais m'arrêter à un verset seulement. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Enfin, je vais simplement lire un verset du livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 9. J'ai donné pour titre à ce message « Un trio inséparable ». Un trio inséparable. Apocalypse 1, verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Voilà, Jean nous présente ici un peu sa situation au moment où il reçoit la révélation de l'Apocalypse. Il nous dit, il nous précise le lieu où il se trouve, l'île de Patmos. C'est une île rude et nue qui se trouve en mer Égée. Et il nous dit la raison de sa présence dans cette île, dans ce lieu si éloigné de sa patrie. Jean était en exil, dit-il, en raison de la parole de Dieu et du témoignage qu'il avait rendu à Jésus. On remarque que Jean n'était pas là en touriste. On peut visiter l'île de Patmos, ce sera en touriste, mais Jean était là contre sa volonté. Il a été conduit dans ce lieu suite à une persécution, et donc il vit dans ce lieu par contrainte à cause du fait qu'il est un disciple connu et déclaré de Jésus-Christ. Ça, c'est pour le contexte. La question qu'on doit se poser, c'est comment Jean percevait-il sa situation? Comment la vivait-il? Quelle lecture faisait-il de ce qui lui arrivait? Est-ce que Jean est simplement abattu, désolé de cette situation? Comment vivait-il cette situation sur le plan spirituel? On a une première indication déjà dans la salutation que fait Jean. Jean ne parle pas en son nom. Quand il écrit l'Apocalypse, au verset 4 et 5, il dit « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. » Ce qu'on remarque ici, c'est que Jean n'a pas perdu la vision du Dieu qui est sur le trône. Il parle au nom de la Trinité, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain, le chef des rois de la terre. Et c'est encourageant de voir Jean qui a cette vision déjà de sa situation à travers la connaissance qu'il a de son Dieu. Jean sait qu'il est ici à cause d'un décret de l'Empire de Rome, de l'empereur, qui a ordonné sans doute que les chrétiens soient exilés, mais il sait qu'au-dessus de cet empereur, il y a son Seigneur, le Seigneur qui est assis sur son trône, le Seigneur qui est le chef des rois de la terre, y compris de l'empereur de Rome. Une deuxième chose par rapport à cette lecture qu'a Jean de sa situation, elle nous est donnée dans le verset que j'ai lu, verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Si Jean n'avait qu'une lecture humaine de sa situation, il se serait dit « Moi, Jean, je suis ici à Patmos au milieu de vous. » enfin au milieu de prisonniers, pardon, politiques de toutes sortes. Je suis dans la faim, le froid, dans les chaînes, je dois travailler, peut-être. Mais Jean n'a pas simplement une lecture, je dirais, de la réalité physique dans laquelle il se trouve. Jean comprend les choses de manière spirituelle. Quel est le but de Dieu? Comment il doit vivre sa situation? Et je trouve qu'il y a là d'abord un premier enseignement pour nous. La réaction de Jean par rapport à ce qu'il vit nous enseigne une première vérité, c'est que ce qui compte dans notre vie, ce qui impacte notre vie, n'est pas ce qui nous arrive sur le plan physique, mais la lecture que nous avons des choses qui nous arrivent. C'est ça qui est important. Comment nous les vivons spirituellement? Si Jean s'était arrêté à la lecture humaine, matérielle, physique, il aurait peut-être parlé de son amertume, de sa déception, mais là, il nous parle de réalité qui lui procure de la force et du courage. Et si Jean parle ainsi, on voit au verset 9 qu'il s'adresse aussi à ses frères parce que, bien sûr, il n'est pas le seul à vivre cette réalité. Hein. Au temps où Jean écrit, beaucoup de chrétiens étaient aussi comme lui, exilés, en prison, étaient persécutés. Et donc Jean tient aussi à leur transmettre de quelle façon il vit cette situation. On va s'arrêter ce matin sur quatre termes de ce verset. Et le premier que je vais utiliser, c'est celui qui se trouve à la fin, c'est le quatrième. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. En Jésus. On voit ici que c'est la clé de ce que Jean vit. Jean est conscient qu'en tant que disciple de Jésus, il suit les traces de la vie de Jésus. Il a part aux réalités auxquelles a participé Jésus lorsqu'il a vécu ici-bas. Effectivement, il faudrait parcourir tous les évangiles, je ne l'ai pas fait, mais on va retrouver dans la vie de Jésus ces trois réalités. Jésus partageait la tribulation, il a connu la tribulation, la persécution, il participait à la royauté, dans sa relation avec le Père, et il a vécu dans la persévérance. Ce trio se retrouvait aussi dans la vie de Jésus. Jean nous enseigne donc qu'être disciple de Jésus, c'est le suivre sur le chemin sur lequel il a marché. Et Jésus nous a dit dans Jean 15, verset 20, « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Être disciple de Jésus, c'est finalement l'accompagner dans les réalités difficiles et douloureuses qu'il a vécues ici-bas. Et c'est partager les espérances glorieuses qui étaient aussi les siennes. Nous ne sommes pas seuls pour vivre notre vie chrétienne. Nous le vivons avec Jésus et nous suivons Jésus. Et je crois que nous devons être conscients que nous sommes solidaires avec Jésus, nous faisons partie de lui, nous sommes son corps, il est la tête, et ce que nous vivons, nous le partageons avec lui. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance. On va prendre le premier terme. Moi, Jean, votre frère qui prends part à la tribulation. Alors, je ne sais pas si, en pensant à ce que vous avez de commun avec Jésus, vous auriez tout de suite dit à la tribulation. Jean en parle en premier parce que c'est sa situation. Il vit dans la persécution. Mais il faut dire que quand on lit l'histoire, et quand on voit simplement les épîtres de Paul, de Pierre, La tribulation était quand même le lot quotidien des disciples des premiers siècles. De manière presque quotidienne, les chrétiens faisaient face à l'hostilité, la persécution, la tribulation. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors le mot tribulation, c'est un mot générique, on pourrait dire, qui englobe toutes sortes de choses qui ne sont pas agréables. Ici, ça équivaut à la persécution, mais la tribulation, c'est aussi les afflictions, la détresse, la souffrance, les calamités, les tourments, les pressions, les oppressions que peuvent connaître les enfants de Dieu. Ce que Jean nous rappelle ici, c'est que être disciple de Jésus, ce n'est plus être dans la capacité de contrôler tout ce qui nous arrive. On aime bien être libre de ses mouvements et planifier les choses, mais le Seigneur est libre d'agir aussi comme il l'entend avec nous. Et nous devons comprendre que être chrétien, c'est parfois vivre dans une sorte d'insécurité. On ne sait pas trop ce que sera l'avenir. Parce que le Christ, être fidèle au Christ peut nous conduire dans des situations difficiles. Les premiers disciples de Jésus le savaient, leur liberté était précaire. Et l'apôtre Paul nous enseigne que nous devons vivre ici comme des étrangers, des pèlerins. Et ne pas penser que simplement, nous sommes comme les autres dans ce monde, nous pouvons jouir de ce monde sans nous soucier de ce qui peut nous arriver. Et donc, c'est la première chose aussi qu'on remarque ici. Jean, il nous dit, Moi, Jean, qui suis votre frère, je prends part à la tribulation. Nous sommes des indésirables à cause de notre foi. Alors peut-être que on ne le vit pas encore pleinement comme les disciples l'ont vécu, mais on doit se rappeler toujours de ça. Nous sommes des indésirables. On a parlé de l'apôtre Pierre. À la fin de l'évangile de Jean, Jésus dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu mettais ta ceinture toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudras pas. Donc Jésus annonce déjà à Pierre que la fin de sa vie sera difficile, qu'il sera contraint d'aller, il se retrouvera dans des situations qu'il n'aura pas choisies par fidélité à Christ. La persécution, la détresse, l'instabilité fait partie du programme de Dieu. Il a fait partie du programme de Dieu pour Jésus et fait aussi partie du programme qu'il a pour nous. Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Et on sait comment notre Seigneur a fini, hein, sur une croix. La Bible nous dit que Jésus a appris la docilité, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et donc la détresse, elle a à la fois quelque chose qu'on ne choisit pas, qui nous est imposé, mais c'est en même temps un programme d'éducation que Dieu a pour nous instruire, pour nous former, comme je l'ai dit, à la docilité. La question donc que je me pose et que je vous pose, c'est quelle lecture nous avons de toutes les choses désagréables qui nous contrarient dans la vie chrétienne. C'est des petites choses aujourd'hui, hein. Peut-être que demain ce sera de plus grandes. Nous sommes contrariés parfois par les autres, le fait qu'ils nous reprennent. On peut subir une injustice à son lieu de travail, être mis de côté par sa famille, traverser des périodes difficiles faites d'échecs, de découragement, souffrir du caractère d'un autre qui nous en fait voir. Toutes ces choses, au fond, sont des détresses, des souffrances que Jésus a aussi a connues. Et parce que nous sommes disciples de Jésus, nous partageons avec lui les tribulations qui ont été son lot aussi pendant sa vie. Ce qui m'encourage ici, c'est que Jean veut vraiment partager ce qu'il vit. Il veut préparer ses frères aussi à cette réalité de la détresse. Jean n'est pas, comment dire, promoteur d'un évangile de la prospérité. Il dit, préparez-vous au pire, pas au meilleur. Vous serez prêts comme ça. Et Paul nous rappelle que être disciple de Jésus, c'est connaître la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion à ses souffrances. Spurgeon, l'évangéliste anglais bien connu du 19e, a dit cette phrase étonnante. « Le Père n'a pas épargné et ménagé son Fils unique et bien-aimé. Il ne nous épargnera pas et ne nous ménagera pas non plus. » Certes, nous ne connaîtrons jamais les souffrances de Jésus au même degré que lui. Parce que Jésus a porté nos péchés, il a subi la colère de Dieu pour nous. Il a vraiment été séparé du Père à la croix. En tout cas, il a connu cet abandon pour que nous ne le connaissions pas. Mais nous participerons en tant que disciples à la tribulation par laquelle il est passé. Nous connaîtrons aussi les souffrances, une certaine dose de souffrance, simplement parce que nous sommes des ennemis de ce monde, des ennemis, des indésirables pour le royaume de ce monde. Ça, c'est la première réalité que partage Jean. Nous avons part à la tribulation. Ensuite, il nous dit que nous avons part à la royauté. Et je trouve que c'est très important que les deux soient liés. Dans le présent, la tribulation. Mais dans la gloire, dans l'avenir, la royauté. Il est très important que dans notre vie, nous n'oublions jamais la finalité, l'étape finale de notre parcours avec le Seigneur. C'est ça qui est glorieux et qui est enthousiasmant, malgré le combat et les difficultés. L'apôtre Paul, dans la dernière lettre qu'il a écrite de Timothée, dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » C'était la vision qu'il avait, Paul. Et le Nouveau Testament fait beaucoup de liens entre les souffrances, le fait de participer aux souffrances du Christ et le fait de connaître un jour la gloire et la consolation dans son royaume. Alors qu'il venait d'être lapidé à Lystre et traîné hors de la ville par ses adversaires, l'apôtre Paul dit à ses compagnons, ça m'étonne toujours, la force de Paul, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul dit ça. Ses adversaires ne savent pas s'il vit encore. Ils ont pensé qu'il était mort. Et à peine il se relève, Paul, il communique cette vision à ceux qui sont avec lui. On est en route pour le royaume, les frères. C'est par beaucoup de tribulations, mais on est en route pour le royaume. Nombre de soldats du Christ vont, comme Jésus, entrer dans le royaume de Dieu avec les cicatrices de leurs souffrances. Jésus garde dans l'éternité les marques des clous. Et nous aussi, nous entrerons peut-être avec des cicatrices. Il y en a qui rentreront avec des cicatrices dans le royaume de Dieu. Mais elles seront leur sujet de gloire. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, dit Paul, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Et l'apôtre Pierre dit dans sa première épître, Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Matthieu 5, 11, verset 12. Heureux serez-vous, la béatitude de Jésus, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Là encore, ce que Jean veut nous enseigner et ce que les épîtres nous enseignent, ce qui est important, c'est la lecture que nous avons de ce qui nous arrive. Les disciples qui vivaient dans la souffrance, et d'ailleurs vous savez que la plupart des chants gospel qui apportent beaucoup d'espérance ont été écrits aussi dans la souffrance. Eh bien, toutes ces réalités-là sont vécues parce que ces frères avaient la vision de la gloire du royaume auquel ils ont part. Ce que nous vivons est à la fois une préparation et une qualification pour le futur. Et bien sûr, c'est le Seigneur qui a en main notre éducation et notre parcours à chacun d'entre nous. C'est lui qui décide la dose de détresse, de souffrance, de tribulation que nous devrons traverser dans cette vie. Mais les résultats, la moisson de tout cela se trouvera dans la gloire, dans le royaume. Troisième chose que Paul souligne, et je trouve que ben, il y a un lien entre tout ça, entre la tribulation et la royauté, le chemin, la vertu qui doit être développée pour passer de l'un à l'autre, c'est la persévérance. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance. De la détresse à la royauté, le chemin qui y conduit passe par la persévérance. Alors la persévérance n'est pas une vertu qui est mineure dans le Nouveau Testament. Le terme apparaît 22 fois dans les évangiles et les écrits des apôtres. Et la persévérance est souvent liée dans la Bible à tous les aspects de la vie chrétienne. Jésus dit, ceux qui portent du fruit avec persévérance constituent le bon grain, dans la parabole du semeur. Hébreux 6 nous dit, nous sommes appelés à imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses de Dieu. Un peu plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Paul nous invite aussi à persévérer dans plusieurs choses, la prière, la communion fraternelle, l'amour, la lecture de la parole, enfin voilà. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, dit Jésus. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aimerais bien avoir les vertus chrétiennes sans combattre. Si seulement j'étais persévérant. Mais persévérer, dit le dictionnaire, c'est persister, s'obstiner, poursuivre jusqu'au bout. C'est demeurer ferme et constant dans une résolution. Le mot persévérance inclut l'idée d'une opposition, d'un combat. Nous ne persévérons pas dans la facilité, mais envers et contre tout. Celui qui veut être persévérant sans combattre, c'est un peu comme celui qui voudrait avoir des gros muscles sans jamais s'entraîner. Pas possible. L'apôtre Paul, dans Romains 5, dit « Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » On doit bien être conscient de cela. Le Seigneur connaît les temps qui sont devant nous. Et finalement, ce que nous vivons ici, les difficultés que nous vivons dans les moments plus faciles, sont aussi des entraînements. Parce que nous aurons la force de persévérer si nous apprenons déjà aujourd'hui à résister au péché, à résister au découragement, à résister à tous les vents contraires qui sont contre nous. Maintenant, quand on entend le terme persévérance, on pourrait se dire, mais moi, je n'ai pas la force de caractère pour persévérer. Dans le monde, les gens qui persévèrent, ceux qui font des grands exploits, bon, souvent on se dit, ben, c'est des héros, c'est des hommes hors du commun. Et moi, je ne suis pas comme ça. Mais la Bible nous montre que la persévérance, elle n'est pas le résultat de la force de notre volonté, mais du regard qu'on porte sur Jésus. C'est différent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. La persévérance, elle est donnée à ceux qui sont faibles, craintifs, et qui savent qu'ils ont besoin de s'appuyer sur le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit que quand il est faible, c'est là qu'il est fort, parce qu'il reçoit de Dieu sa force. Et je crois que si la vie chrétienne, si la réussite, enfin la réussite, si l'arrivée au ciel n'était qu'au fort, pauvre de nous. Mais Jésus est là pour tous. Il est là pour toi, il est là pour moi. Il connaît la réalité de nos forces. Et plus nous sommes faibles, plus nous avons besoin de nous approcher de lui, de chercher en lui notre secours, notre force. Moi, je ne pense pas que les héros de la foi, ceux qui sont passés par, les cirques romains, tout ça, enfin, vous savez, les arènes, étaient des gens plus forts que nous. Hein. Simplement, ils ont cherché, ils ont trouvé, et Jésus était proche d'eux dans les moments les plus difficiles. Regardez Étienne, le premier martyr, il voit Jésus dans le ciel, et il a la force de tenir face à ce qui est contre lui. Un des titres de Dieu dans la Bible, c'est le Dieu de la persévérance. Moi, je suis content que le Seigneur persévère avec moi. Il ne va pas nous lâcher. Il tient trop à nous. Il a donné sa vie pour nous. Et même si nous avons l'impression que nous ne tiendrons pas, c'est lui qui nous tient quand nous ne tenons plus. Il nous porte. Moi, Jean, qui suis votre frère, qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. Quelle lecture avons-nous, c'est la conclusion, quelle lecture avons-nous des détresses, des difficultés, des contrariétés, des désagréments par lesquels nous passons? Est-ce que nous sommes conscients que nous participons aux souffrances de Jésus ici, à la détresse, aux tribulations par lesquelles il est passé, aux angoisses qu'il a connues? Sur quoi portons-nous nos regards dans l'épreuve, la difficulté, les tourments par lesquels nous pouvons passer? Nous sommes en route pour le meilleur, pour le royaume et la gloire, pour une éternité sans fin avec le Seigneur, avec les anges, avec les élus. Nous avons besoin de persévérance, c'est ce que dit l'Épître qu'on a lu, l'Épître aux Hébreux. Vous avez besoin de persévérance. Mais nous avons avec nous le Dieu de la persévérance, celui qui promet qu'aucun de ses élus ne sera perdu, mais qui va les porter jusqu'à la fin. J'aimerais dire pour finir, alors c'était un pur hasard, mais il y a des hasards de Dieu. Tous les matins, je commence ma journée en lisant les trésors de la foi de Spurgeon. Et aujourd'hui, il y avait une méditation qui colle parfaitement avec ce que... Alors, je vais simplement terminer avec ça, puis après on aura un temps de prière. Ça s'appelle « Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». Pendant que nous sommes ici-bas, le Seigneur est avec nous, mais au jour où il nous appelle à quitter ce monde, nous sommes avec lui. Rien ne peut séparer le Saint de son Sauveur. Ils sont un et ils doivent le rester à tout jamais. Jésus ne peut pas être privé de son peuple choisi, car il serait alors une tête sans corps. Que nous soyons pris dans les airs, en repos dans le paradis ou en pèlerinage ici-bas, nous sommes avec Jésus qui nous séparera de lui. Quelle joie dans cette pensée. Notre suprême honneur, repos, consolation, délice, c'est d'être avec le Seigneur. Nous ne pouvons rien imaginer qui puisse surpasser ou même égaler cette compagnie divine. Par une sainte communion, nous devons être avec lui dans son humiliation, dans le rejet qu'il souffrit et dans le travail de son âme. Et alors nous serons avec lui dans sa gloire. Avant longtemps, nous serons avec lui dans son repos, dans sa royauté, dans son attente, dans sa venue. Nous goûterons de ses propres mets et partagerons son triomphe. Ô mon Seigneur, si je dois être pour toujours avec toi, alors ma destinée est incomparable. Je ne peux même pas envier un archange. Être éternellement avec le Seigneur est la plus haute idée que je me fais du ciel. Aucune harpe d'or, couronne impérissable ou lumière inaccessible n'est la gloire pour moi, mais être pour toujours avec Jésus. Jésus lui-même dans la communion la plus intime et la plus précieuse. Voilà, je propose qu'on ait un temps de prière, qu'on puisse simplement exprimer aussi peut-être ce que le Seigneur nous a dit, ce qu'on veut retenir de ce qu'on a entendu ce matin.